Quels moyens pour l'enseignement supérieur en France? Le sujet a fait irruption dans la campagne électorale le 13 janvier dernier. Discours d'Emmanuel Macron devant les présidents d'université. 4 points à retenir dans la voix du président pas encore candidat. Il envisage une remise en cause du double système grandes écoles université. Il s'indigne de l'ampleur de l'échec en première année où la moitié des étudiants ne se présentent pas aux examens. Il pointe un enseignement qui ne coûte presque rien aux étudiants mais n'empêche pas la précarité et limite l'autonomie des universités. Et il plaide pour plus d'autonomie des universités mais aussi pour qu'elles soient plus professionnalisante. Alors, faut-il voir dans ce discours un pas vers une augmentation des frais d'inscription à l'université? Je n'ai jamais dit cela, se défend le président. Quel changement nécessaire? 01 45 24 7000. L'appli France Inter aussi pour vos questions. Deux invités jusqu'à 13h45. Gabrielle Fac, professeure d'économie à Dauphine, co-autrice d'une note pour le Conseil d'analyse économique sur l'investissement dans l'enseignement supérieur. Bonjour. Et bonjour Manuel Thunon de Lara, pardon, président de l'Université de Bordeaux et de France Université. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On va tout de suite commencer avec une question de François. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour à France Inter.
Nous vous écoutons François.
Ben, merci de prendre ma question. Alors voilà, on assiste depuis 10 ans à une stagnation du budget de l'État concernant l'enseignement supérieur, alors que parallèlement le nombre d'étudiants lui a augmenté de 20%. La part individuelle a baissé d'autant par étudiant.
Gabriel Fac, oui, allez-y.
En même temps, on baisse, on fait des cadeaux à travers des allègements fiscaux, suppression de l'ISF, etc., à des gens qui ont 50, 60, 70 ans et plus, même des centenaires. Alors je voulais savoir si c'était comme ça qu'on envisageait l'avenir d'une nation.
Merci.
On peut dresser le même constat concernant les hôpitaux, les transports.
D'autres services publics. Merci François pour votre question. Gabriel Fac, est-ce que vous ratifiez le constat budget de l'enseignement supérieur qui stagne alors que le nombre d'étudiants augmente?
Oui, tout à fait. Les chiffres montrent ça vraiment. Il y a eu en fait une décision volontariste d'augmenter l'accès au baccalauréat. Et donc le baccalauréat donne l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc on a depuis une vingtaine d'années une augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et les budgets n'ont pas suivi. Et donc effectivement, depuis en particulier 2010, on a une baisse de la dépense par étudiant parce que les budgets n'ont pas augmenté suffisamment pour compenser l'augmentation des effectifs.
Est-ce que rapporté à des pays comparables, l'investissement de la France dans l'enseignement supérieur est plus haut, plus bas ou dans la moyenne?
Alors, il est à peu près dans la moyenne de l'OCDE, mais il y a un certain nombre de pays qui font beaucoup mieux que nous, en particulier des pays comme les pays nordiques, le Danemark. Il y a aussi l'Allemagne qui fait bien aussi, plutôt mieux que nous. Et donc du coup, en fait, par rapport à des pays similaires à nous, on n'est pas forcément les mieux placés. Et en plus, ça a décroché depuis 2010.
Manuel Thunon de Lara, est-ce qu'on en est à un stade, là, à l'aube d'un nouveau quinquennat, où pour progresser dans l'accueil des étudiants, dans leur encadrement, dans la compétitivité des universités, il faut maintenant un investissement plus massif que ce qui existe aujourd'hui?
Oui, absolument. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les constatations qui sont faites et qu'on partage, que le président de la République d'ailleurs a partagé avec nous. Aujourd'hui, il faut un investissement bien plus massif sur les formations. Il faut une loi de programmation pour que, en particulier, les encadrements soient à la hauteur. Un des problèmes, c'est la réussite des étudiants qu'on pointe du doigt. Mais derrière cette réussite, vous avez beaucoup d'inégalités en termes d'encadrement. Et l'autre aspect, c'est la recherche. L'université française, c'est le premier opérateur de recherche en France. Il y a eu une loi de programmation, mais vous demandiez des comparaisons internationales. Oui. On n'est pas du tout aux 3% qu'on s'était fixé en termes européens. Et là, on a un vrai retard qu'il faut combler sur ces deux versants de l'université française.
Est-ce que vous, président d'université, ça vous aiderait s'il y avait une augmentation des frais d'inscription à l'université? On est à 170 euros aujourd'hui par an en licence, 243 en master. La Cour des comptes, par exemple, suggère de passer à 730 euros en licence.
Non. Je vous donne un chiffre de mon université que je présidais jusqu'à il y a quelques jours. Mon budget est de 609 millions. Les droits d'inscription, de licence, ça doit être à peu près 2 millions. on va toujours se situer dans un pourcentage
qui est très bas,
qui
donc
est inférieur à 2% par rapport à votre budget.
Ce que vous dites, c'est que jouer sur les frais d'inscription n'aurait pas d'impact majeur sur votre budget.
La loupe des frais d'inscription n'est pas, de mon point de vue, la bonne loupe. D'un point de vue, pour la charge des familles et des étudiants, on augmente cette charge, on accroisse les inégalités. Et ça n'est pas ça qui va résoudre le modèle économique de l'université française, à moins de basculer dans un tout autre système anglo-saxon, mais on va même à l'encontre de la Constitution qui dit que l'éducation, la culture, l'enseignement doit être un accès pour tous dans le pays.
Question d'Isabelle au Standard. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Et les questions de l'Université de Bordeaux, justement.
Disons que moi, je suis plutôt sur la formation des professeurs et la recherche aussi. Et ce que je constate, je partage les constatations de mes collègues, à savoir que la recherche n'est pas suffisamment étayée, financée par l'État, que le travail des enseignants-chercheurs n'est pas suffisamment reconnu et subventionné. Et par ailleurs, comme l'a dit la collègue, il y a eu 30 000 étudiants de plus depuis 10 ans et on recrute 2 000 enseignants-chercheurs de moins chaque année. Et du coup, par exemple, les étudiants qui font une thèse ont beaucoup de mal à trouver un travail.
Gabriel Fac, est-ce que vous voulez réagir à ces propos? Et sinon, j'ai une question sur le taux d'encadrement. Alors, j'y vais direct sur le taux d'encadrement dont parlait Manuel Thunon de Lara. Pour fixer les chiffres, vous dites que le taux de réussite en DUT, je crois qu'on dit BUT aujourd'hui, est plus de 2 fois supérieur à ce qu'il est en licence. C'est avant tout lié au taux d'encadrement. Donc, l'investissement, il doit être mis là-dessus.
Oui, donc nous, on a un des travaux qu'on a fait dans le travail que j'ai publié, c'est justement de regarder quelles étaient les différences de coûts entre les différentes formations quand on s'intéresse vraiment aux coûts de formation. Parce que souvent, effectivement, dans la dépense d'étudiants, on prend en compte à la fois la recherche, la formation, les aides aux étudiants, etc. Mais là, on s'est intéressé vraiment particulièrement aux formations. Et en isolant les dépenses qui étaient liées aux formations, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences extrêmement fortes entre les dépenses pour des étudiants en licence par rapport à des étudiants qui soient en classe préparatoire ou en BUT. Mmh. Et en fait, quand on regarde d'où viennent ces dépenses, donc c'est un peu de l'ordre de 1 à 4, c'est-à-dire il y a 4 fois plus d'argent qui va être dépensé sur les étudiants, en particulier en classe préparatoire par rapport à un étudiant en licence. Et quand on regarde d'où ça vient, ben ça vient essentiellement effectivement de différences liées au nombre d'heures et au taux d'encadrement. Et donc, il y a des taux d'encadrement qui varient de l'ordre de, effectivement, 2 à 3 fois plus d'enseignants par élève en BUT ou en classe préparatoire par rapport à un élève en licence.
Manuel Thunon de Lara, on pourrait faire valoir, s'agissant des classes prépa, qu'après tout, c'est le coût de l'excellence, que l'excellence a un coût. Quand le président de la République envisage, alors sans aller plus loin, une remise en cause du double système grandes écoles-universités, comment ça peut être remis en cause? C'est-à-dire, est-ce que vous, université, vous pouvez petit à petit absorber les grandes écoles? Comment ça peut se passer?
Non, je crois qu'il ne s'agit pas d'absorber les grandes écoles, mais d'abord l'excellence elle est partout, l'excellence elle est à l'université, il y a des cursus qui ne se font qu'à l'université. C'est beaucoup plus difficile de réussir en médecine que dans bien des écoles après des classes prépa. Mais il y a une profonde inégalité dans l'encadrement. Ceux qui encadrent dans les classes préparatoires, ce sont des professeurs qui viennent de l'université, qui ont été formés à l'université. Pourquoi y aurait-il cette différence de talent, de compétences? Et puis, de plus en plus, les universités s'intéressent effectivement à ces classes préparatoires. Certaines peuvent être intégrées. Et il y a un lien à faire avec le lycée. C'est ce qu'on a également dit lorsqu'on a partagé nos conclusions avec le président de la République.
De ce point de vue-là, il y a une candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui veut supprimer Parcoursup. Est-ce que pour ce lien avec le lycée, Parcoursup est un système satisfaisant ou est-ce qu'il faudrait en changer?
Écoutez, Parcoursup, c'est une évolution par rapport à un système qui était APB, dans lequel on avait des tirages au sort.
Et donc, qui faisait hurler tout le monde à l'époque.
Voilà, et qu'on a peut-être tous testé comme parents. Donc, Parcoursup, le supprimer ne servirait à rien. Il faut probablement l'améliorer, il faut mieux le documenter, il faut mieux l'articuler avec les programmes des universités. Il y a une marge, évidemment, de progression dans l'orientation. Et peut-être traiter cette forme d'inégalité qui existe et qui n'est pas qu'à ce moment-là des études, qui vient avant dans le système de l'éducation. C'est-à-dire que certaines, dans un environnement familial donné, eh bien, on va être mieux informé pour être mieux orienté et mieux réussir. C'est peut-être à ça qu'il faut travailler.
Autre intervention au standard. Caroline, bonjour Caroline.
Oui, bonjour. Alors moi, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur rapidement. C'est concernant donc les écoles de commerce. Voilà, je ne comprends pas pourquoi en France, les écoles de commerce, qu'elles soient publiques ou privées, soient aussi onéreuses. Alors oui, on va peut-être me dire qu'il existe aussi la filière BUT pour faire du commerce, mais je pense que sincèrement, c'est moins reconnu sur le marché. Et donc, je ne comprends pas que ça soit aussi cher, qu'il n'y ait pas d'école de commerce publique gratuite, comme par exemple les écoles d'ingénieurs.
Gabriel,
c'est plutôt mon parcours, et donc voilà, mon fils qui fait une école de commerce est obligé de passer par un prêt pour pouvoir y accéder.
Gabriel Fac, sur cette question.
Oui, en effet, c'est vrai que comme il y a un sous-investissement public dans les universités, il y a le secteur privé en train de se développer très rapidement dans l'enseignement supérieur en France, qu'il est peu régulé, qu'il est peu transparent. Et donc, non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est très difficile pour les parents de savoir exactement quel va être l'intérêt et la valeur d'un diplôme dans un certain nombre d'institutions privées. Et donc, nous, dans la note, on dit qu'il faut vraiment avoir beaucoup plus de transparence sur quels sont les salaires à la sortie, quels sont les coûts, parce que nous, on a essayé d'avoir de l'information sur quels étaient vraiment les coûts de formation dans les écoles de commerce, et on a eu une fin de non-recevoir, et donc on a essayé de calculer par nous-mêmes quels sont les coûts de formation dans les écoles de commerce, qui nous arrivait à la conclusion que probablement les dépenses de formation sont peut-être moins élevées que les coûts qui sont payés par les étudiants, parce qu'en fait, ils supportent aussi des coûts liés à la recherche, etc. Et donc, il n'y a pas du tout de transparence sur les coûts, et c'est très important pour qu'il y ait plus d'informations là-dessus, pour que les parents puissent vraiment choisir en connaissance de cause.
Emmanuel Tunon de Lara, l'idée d'une plus grande transparence, information sur le salaire à la sortie d'une formation, les emplois disponibles à la sortie d'une formation, ça j'imagine que vous signez dès demain. Pourquoi c'est pas en place? Ça semble assez simple à mettre en place, ce genre d'indicateur.
Je pense que c'est en partie en place. Si vous nous interrogez sur des masters, on va vous dire il y a 92% d'insertion, il y a tel salaire au bout de 18 mois. Ça rejoint d'ailleurs les salaires des écoles. Le problème, c'est le premier cycle, parce qu'il y a une partie du cycle qui n'est pas professionnalisant. Dans l'étude qui a été faite par la Manfac, on voit très bien qu'entre une licence générale et une licence professionnelle, le résultat est complètement différent, et qu'on peut donner très précisément du salaire, l'insertion,
de la licence professionnelle.
Une licence professionnelle, et qu'on a intérêt à professionnaliser plus le premier cycle et à ne pas le considérer comme le départ d'une formation tubulaire, comme si on était partis tous pour 8 ans d'études. Et je pense que cette approche de premier cycle et de compétences dans le premier cycle, dont d'ailleurs le pays a besoin, sur les entreprises en ont besoin. Ça, c'est un chemin qui reste à parcourir à l'université.
Gabriel Fac, ce que vous suggérez aussi dans votre note, c'est de renforcer les quotas pour les boursiers, pour les étudiants qui ne résident pas en Île-de-France.
Oui, ça vient effectivement d'un constat qu'on fait dans la note d'une forte inégalité d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que un enfant qui est issu d'une famille moins aisée a 3 fois moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un enfant issu d'une des familles les plus aisées. Et donc, on essaye de faire un certain nombre de recommandations pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, à la fois d'augmenter les aides financières, d'augmenter aussi le logement pour les étudiants, mais également effectivement d'avoir une approche volontariste et d'augmenter en fait les quotas qui existent déjà dans Parcoursup, mais qui sont pas assez importants pour vraiment changer les choses.
Manuel Tunon de Lara, il nous reste une poignée de secondes. Le président de la République plaide pour des formations professionnalisantes tout au long de la vie et que les universités doivent mettre en place. Petit 1, c'est possible. Petit 2, c'est une source de revenus pour vous?
C'est possible, c'est une source de revenus qui est marginale par rapport au budget.
Oui.
Et je pense qu'il y a un point fondamental dans tout ça. Il faut considérer ça comme un investissement pour le pays. C'est investir dans l'université, ça a un retour en termes de croissance, en termes de progression de salaire, en termes de compétences, en termes d'éducation. C'est cette approche-là qu'on demande d'avoir pour l'université française.
Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Inter.